Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h, jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clément Salazar, mais aussi Samuel Bernard, Juliette Gadeau, Tiffaine de Rocchini, réalisée par Milena Heilig et mise en onde ce matin par Jean-Guilain Meige. Deuxième volet donc de notre série consacrée aux musées, on parle ce matin de musées et de récits nationaux, de musées comme lieu de mémoire, mais aussi comme arène politique dans laquelle se jouent des batailles idéologiques d'Addis Abeba, à Washington, entre récits nationaux et défense des minorités, la bataille des musées.
I've been low, I've been I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
James Baldwin once wrote, "For while the tale of how we suffer and how we are delighted and how we may triumph is never new, it always must be heard."
James Baldwin un jour écrit, parce que même si le récit de la façon dont nous souffrons, de la façon dont nous éprouvons du bonheur et de la façon dont nous pouvons triompher n'est jamais nouveau. Il doit toujours être entendu. Aujourd'hui, comme tant d'autres générations, nous nous rassemblons sur notre esplanade nationale pour raconter une partie essentielle de notre histoire américaine, une histoire qui a parfois été négligée et nous ne la racontons pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours.
Not just for today, but for all time.
I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man.
Le 24 septembre dernier, à Washington, Barack Obama inaugurait le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine, en présence d'ailleurs de celui qui avait autorisé son lancement, George W. Bush. Ce musée est le premier musée uniquement dédié à la communauté afro-américaine, l'Anacostia Community Museum, créé en 67, se consacrant à plusieurs minorités, dont l'afro-américaine. Un peu partout dans le monde, les musées sont des espaces dans lesquels s'écrivent les récits nationaux, mais où aussi ils peuvent être remis en cause, et celui de Washington en est l'un des exemples. Il s'agit ici de mieux reconnaître l'histoire de la communauté afro-américaine et peut-être reconnaître aussi son apport dans la construction de la nation et donc de pluraliser d'une certaine manière le récit national. Ici en France, dès la fin des années 70, l'historien Pierre Nora notait que l'histoire s'écrit désormais sous la pression des mémoires collectives et que ces mémoires cherchent à compenser, disait-il, le déracinement historique du social et l'angoisse de l'avenir par la valorisation d'un passé qui n'était pas jusque-là vécu comme tel. Pour l'historien français, membre de l'Académie, un lieu de mémoire va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et intellectuellement construit. Parmi ces objets de mémoire, justement, le musée, un espace par lequel on conserve et on expose la mémoire, mais aussi où se jouent des luttes de pouvoir, des luttes pour la reconnaissance de droits. Alors quels sont les usages politiques de la patrimonialisation et quelles formes prennent-elles, notamment en Afrique, qui va nous intéresser tout particulièrement, que ce soit en Éthiopie ou au Kenya? Quelles sont les instrumentalisations qui sont à l'œuvre autour des musées et que nous disent-elles de l'évolution de ces pays et de ces sociétés? Voilà un certain nombre de questions qui vont nous intéresser ce matin. Pour tenter d'y répondre, nous avons invité en duplex depuis Rennes, Chloé Josse-Durand. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous êtes chercheuse au LAM, le laboratoire de Bordeaux, Les Afriques dans le monde. Vous avez écrit une thèse dont je vais lire le titre. Bâtir les mémoires locales, pluraliser le récit national, le musée communautaire au prisme des usages politiques de la mémoire et du patrimoine au Kenya et en Éthiopie. Vous êtes intéressé en particulier à deux musées, le musée Konso en Éthiopie, le premier musée ethnographique au sud du pays, et puis le musée mausolée de Koitatel Samoa au Kenya. Votre thèse est de dire que ces musées sont peut-être d'abord et avant tout des espaces intermédiaires de négociation entre un certain nombre de groupes, entre un certain nombre d'acteurs. On va en parler avec vous. Mais d'abord peut-être une question un peu générale sur les musées de façon générale. Parce que les années 90, dans les pays africains, on voit que beaucoup de gouvernements vont mettre en place des politiques de valorisation du patrimoine avec des musées nationaux, avec des musées régionaux. Tous, bien sûr, évoquent cette question du vivre ensemble. En quoi ces musées sont-ils, selon vous, des lieux privilégiés pour observer justement la contestation du récit national officiel? Et pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là, les années 90, pourquoi est-ce que ce moment est particulièrement propice à cette réappropriation, selon vous, Chloé-Jose Durand?
Alors tout d'abord, pourquoi essayer de prendre le musée justement comme un lieu d'observation du politique? Pour moi, ça me paraissait tout à fait intéressant de traiter ce paradoxe qui présente souvent justement le musée comme le lieu de la scientificité, de l'exposition de la culture, donc c'est un récit irrationnel qui serait dépourvu de toute ambition politique. Au contraire, on peut constater que dans le cas des musées nationaux tout particulièrement, mais aussi dans les cas de plus petits musées comme ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est souvent le monde politique qui décide du sort du musée, de sa création, de son financement, de son autorisation ou même parfois de sa disparition, même encore de le nommer d'une façon différente comme on le voit pour le Quai Branly par exemple à Paris qui va être nommé le musée Jacques Chirac également. Donc finalement dans le musée tout est politique et le discours muséal à mon sens est également un discours politique. Alors bien souvent le musée national propose un discours consensuel, met en scène le récit national, un récit souvent lissé de ses aspérités peut-être problématiques qui pourraient menacer le vivre ensemble, en tout cas exposer des dissensions au sein même de la communauté nationale. Et c'est là où je me suis intéressée au musée communautaire comme espace justement de contre-discours ou d'exposition d'un discours peut-être plus local, régional, qui cherche à montrer les petites patries, les petites histoires, les petites identités qui s'articulent à la grande, celle de la nation.
On va s'intéresser
alors, pour revenir,
à ces contre-discours, mais Chloé-Jose Durand, faut peut-être préciser que vous êtes intéressée donc à l'Éthiopie et au Kenya. On est dans des contextes très différents. Dans ces années 90-2000, le Kenya est plutôt dans un moment d'ouverture avec une mise en application du multipartisme, même si tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été peut-être comme il aurait fallu, mais en tout cas plutôt dans un moment d'ouverture, alors que du côté de l'Éthiopie, on est dans une lente dérive autoritaire. Mais quel que soit ce contexte, dans ces deux pays-là, le musée va apparaître très clairement comme un espace de lutte politique.
Tout à fait. C'est pour ça que j'ai choisi justement de comparer, non pas la comparable, mais justement deux pays très différents. Donc en utilisant la méthode d'une comparaison par contraste et non pas par similitude, j'ai essayé de montrer justement dans un contexte de resserrement autoritaire, donc dans le cas de l'Éthiopie comme vous venez justement de le préciser, et dans un contexte d'ouverture politique au Kenya, d'essayer de voir comment ces musées justement exprimaient un contre-discours ou justement un discours politique différent de celui du parti au pouvoir ou du gouvernement.
Et vous dites que l'apparition même de ces musées communautaires dont on va parler, ça témoigne, alors là peut-être pour les deux cas, d'une forme de retour de l'identité ethnique en politique.
Tout à fait, puisque finalement ce sont des musées donc de société qui ressemblent un petit peu à ce qu'on connaît chez nous, donc à des musées qu'on a appelés les écomusées hein, dans la foulée de Georges Rivière, donc des musées qui présentent le patrimoine local, l'artisanat local et l'histoire locale. Donc dans le cas kényan par exemple du musée de Koital El Samoy, j'ai essayé de montrer justement que ces revendications locales, elles se transformaient en revendications foncières à travers le musée. Donc on raconte l'histoire d'un territoire, on redéfinit les contours des terrains qui ont été donc volés pendant la colonisation par les colons britanniques, et puis ensuite volés par le gouvernement de Jomo Kenyatta, finalement, au moment de l'indépendance en 63, et qui n'ont jamais vraiment été redistribués à la population locale. Donc ce musée, il raconte certes l'histoire d'un patrimoine, d'une région, mais avant tout aussi l'histoire d'une spoliation foncière. Et donc il sert en ce sens à nourrir un sentiment d'identité, un rapport au terroir renforcé, et donc des ambitions politiques de politiciens locaux qui veulent un retour de leur terre, de leur territoire. Donc un renforcement finalement d'identité ethnique au niveau local, autochtonie notamment.
Alors on va justement peut-être plonger dans ce milieu éthiopien et s'intéresser donc à ce musée du peuple Konso. Voilà un peu une ambiance au milieu d'un village Konso, le peuple Konso, donc ses habitants du sud-ouest de l'Éthiopie, dans la région des nations, nationalités et peuples du sud, l'une des 9 régions d'Éthiopie. La culture du pays Konso est classée par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 2011 et maintenant depuis 2009. Il a son propre musée, c'est un mausolée, celui de Koital El Samoy. D'abord peut-être, Chloé-Jose Durand, expliquez-nous qui était cette figure et ce que représente finalement ce musée. Vous dites que c'est la vitrine du fédéralisme du pays, expliquez-nous.
Oui, alors en fait, c'est le musée Conso hein, qui se veut au départ dédié au patrimoine culturel, matériel et immatériel Conso, et qui s'accompagne d'un classement à l'UNESCO dans le cadre de la nouvelle catégorie promue par ce dernier, donc paysage culturel. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, le patrimoine Conso est avant tout constitué de statues funéraires, donc très spécifiques en Éthiopie, puisque c'est l'un des seuls peuples d'Éthiopie à avoir une pratique justement statutaire de la sorte, donc qui ont fait, ce qui a transformé justement cette culture en un véritable objet de convoitise de la part des marchands d'art. Et donc c'est pour pallier au départ à ce trafic illégal d'œuvres d'art Conso, en tout cas de statues funéraires Conso, que la coopération française va s'intéresser à la constitution d'un musée dans cette région.
Donc c'est le résultat d'une coopération internationale en réalité.
Tout à fait. Au départ, c'est un projet totalement exogène et dont le gouvernement éthiopien donc se méfie au départ, puis finalement qui va s'y intéresser puisqu'il lui permet justement de mettre en scène le bon fonctionnement d'un système politique tout à fait particulier, donc propre à l'Éthiopie, en tout cas dans ce contexte, le système du fédéralisme ethnique. C'est-à-dire qu'on a affaire à un État fédéral divisé en 9 États-régions découpés selon des bases ethniques.
Ça, c'est ce et donc le musée la constitution du de 94.
Tout à fait, tout à fait. Sauf qu'en pratique, chaque groupe ethnique, donc plus de 80 aujourd'hui à peu près, a le droit de faire sécession ou de s'autonomiser par rapport au centre politique d'Addis Abeba. Et ce qui crée un certain nombre de tensions, puisque finalement la fédération, tout se joue un petit peu. Ces négociations en politique, elles se jouent sur la menace toujours de faire sécession de la Grande Éthiopie. Et justement, ce musée alimente au niveau local, en mettant en valeur cette culture Conso, alimente des revendications d'autonomie en fait du peuple Conso par rapport aux autres groupes ethniques qui l'entourent, et ils revendiquent notamment la création d'une propre zone administrative qui leur soit qui leur soit attribuée, et ce qui n'est pas le cas au vu de la réforme entamée depuis les années 2000 dans le pays du Sud, où justement les groupes ont tendance à être agrégés par zone administrative commune.
Et c'est d'accord, là où ce musée justement il est le symbole permis, finalement, si je vous comprends bien, il est le symbole en tout cas pour le régime de l'avancée supposée des processus de décentralisation et de démocratisation, sauf que en réalité dans les faits, il masque une réalité très différente, c'est ça qu'il faut entendre.
Tout à fait. En fait, sous couvert de mettre en scène une décentralisation et donc un fédéralisme ethnique qui fonctionne bien et qui inclut toutes ces minorités, les met en valeur sans concession, on a au contraire un phénomène de reconcentration administrative des groupes qui se retrouvent à devoir, en fait, dans des sortes de communautés de communes, cohabiter ensemble avec un degré moindre d'autonomie. Et c'est pour contester cette réforme territoriale que le musée Conso va être utilisé par l'un des chefs de clan local, qui a donc récemment en fait l'objet d'un emprisonnement intempestif de la part du gouvernement, qui a été libéré depuis, le Kala Gezagne. Et donc il va monter un projet en fait de manifestation pacifique, le Conso Proteste, en utilisant justement la légitimité que le musée lui a donnée au niveau local, puisqu'il est très présent dans la muséographie, il a contribué à la réaliser, et sa famille est très représentée au sein de cette muséographie communautaire. Et donc cette visibilité à la fois touristique et internationale, puisque beaucoup de touristes aussi le soutiennent via les réseaux sociaux, lui a permis aussi d'appuyer ce mouvement et d'être aussi très visible au moment de son emprisonnement par le parti au pouvoir. Et ce musée a notamment contribué à nourrir et à renforcer ce mouvement de protestation local. Mmh.
Par qui est-ce qu'il est dirigé justement ce musée ? On imagine que ce n'est pas par des gens, par des locaux. Et du coup, peut-être qui se pose, c'est aussi quelle est la légitimité justement dont dispose la direction qui est en place par rapport aux populations locales.
Tout à fait. En fait, le système éthiopien est une forme de système politique déconcentré. Donc au niveau local, on a une sorte de mairie qui s'appelle le Woreda. Et finalement, c'est le Woreda a longtemps combattu avec les autorités coutumières, dont le chef de clan, le Kala Gezagne, justement, qui est l'un des 9 chefs de clan de la société Conso, pour en fait négocier que ce soit quelqu'un de la communauté choisi par les chefs de clan qui soit à la tête de ce musée. Finalement, le directeur du musée, Ato Gebedo, a été nommé par la mairie locale, donc par le parti au pouvoir finalement, sous sa forme décentralisée. Et ce qui a créé de nombreuses dissensions justement, et le musée a été boudé pendant longtemps par un certain nombre de visiteurs Conso.
Vous dites qu'il a été boudé, ça veut dire que les Éthiopiens ne viennent pas voir ce musée ? Ce sont essentiellement des touristes étrangers ?
Tout à fait. Moi, j'ai pu consulter la fréquentation, hein, qui n'est pas. C'est un petit musée d'une région en fait assez reculée de l'Éthiopie, donc qui n'est pas une fréquentation comme on peut l'avoir dans des musées peut-être nationaux. Donc, on est à peu près sur 1200 à 1500 visiteurs par an, ce qui n'est pas beaucoup. Mais en tout cas, sur ces visiteurs, on a les deux tiers qui sont des visiteurs d'origine étrangère et des Éthiopiens majoritairement issus d'Addis Abeba, qui eux aussi viennent visiter le sud de l'Éthiopie, hein, jusque-là assez déconnectés du centre, notamment par des réseaux routiers assez pauvres. livre et une histoire éthiopienne des hauts plateaux, orthodoxe, chrétienne, plutôt centrée justement au nord du pays qu'au sud. Donc il y a aussi une méconnaissance de la part du public éthiopien, des visiteurs éthiopiens du sud de l'Éthiopie. Donc ce musée a été aussi visité par des Éthiopiens d'origine plutôt du nord du pays.
Encore un mot peut-être avant Oui, je vous en prie, Chloé-Jose Durand.
Mais oui, boudé par la population locale, au sens où notamment un musée communautaire a vocation à ce que les écoles locales viennent le visiter, que les élèves apprennent justement dans ces musées peut-être des pratiques qui disparaissent aujourd'hui, notamment en termes d'autorité, voilà, le système traditionnel d'autorité coutumière, les générations, etc.
Sauf que c'est pas
et
le cas.
Et justement, les instituteurs ont boudé, et voilà, les instituteurs étant aussi politisés en figure locale, ont aussi boudé ce musée qui a été donc qui est tombé en désaffection au niveau local.
Encore un tout petit mot et puis ensuite on passe au Kenya. Mais c'est intéressant ce cas de l'Éthiopie parce que c'est un pays qui a été relativement épargné par le processus de colonisation. Il y a eu bien sûr la présence italienne de 36 à 41, mais c'était qu'une partie infime finalement du pays. La majorité du territoire ne subissait pas directement la politique coloniale. Et pourtant on voit qu'il y a quand même une remise en cause, bien sûr, du récit national.
Tout à fait. En fait, l'Éthiopie, elle s'est construite avant tout sur les hauts plateaux. Enfin, l'Éthiopie telle qu'on la connaît, en tout cas, telle qu'elle est présentée dans le récit national éthiopien aujourd'hui, elle s'est construite sur les hauts plateaux donc du nord d'Addis Abeba, par les différents empereurs chrétiens orthodoxes qui ont régné sur ces hauts plateaux. Et on a un moment en fait assez crucial vers les années 1880-1890 où l'empereur Ménélique II, qui précède les Sélassié, qui est l'empereur le plus connu justement en Éthiopie, va entamer des campagnes en fait dans le sud de l'Éthiopie, donc vers ces régions du sud, notamment la région de la SNNPR que vous mentionnez tout à l'heure, parce que c'est avant tout des régions beaucoup plus fertiles que les hauts plateaux arides du nord en fait. Donc ça devient une région finalement asservie par l'Empire, qui mène différentes conquêtes assez violentes dans le sud du pays, et annexe des territoires notamment Oromo, qui se mobilise également aujourd'hui, Konso, etc. Donc on a un véritable processus que certains chercheurs appellent une colonisation interne finalement du pays par l'empereur éthiopien Ménélique. Et donc un pays qui s'étend vers le sud et qui devient aujourd'hui la Grande Éthiopie. Mais donc on a toujours eu un sentiment de marginalisation de la part de ces territoires sud-éthiopiens justement.
Alors après le musée Konso du côté de l'Éthiopie, direction le Kenya avec le musée mausolée de Koitatel Arap Samoei.
Au cœur du comté de Nandi, au Kenya, plus connu sous le nom de la Source des Champions, se tient le musée Koitatel Arap Samoei, qui a été inauguré par l'ancien président Mwai Kibaki en 2005, en l'honneur du chef suprême du peuple Nandi, qui a mené la résistance contre la domination coloniale britannique. Koitatel signifie « rocher blanc » dans la langue nandi, et un rocher est présent à 200 mètres du musée mausolée où il se dit que Koitatel Samoei tenait ses meetings avant d'être abattu par les Anglais en 1905, un assassinat qui allait marquer l'histoire du Kenya.
Voilà, extrait d'un reportage de la télévision kenyane K24, c'est Nandi, population donc d'Afrique de l'Est qui possède également leur propre langue et qu'on retrouve notamment sur les hauts plateaux kenyans. Chloé-Jose Durand, ça c'est le deuxième cas auquel vous êtes intéressé, Koitalel Samoa, une de ces grandes figures, un héros communautaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est cet homme et pourquoi cette figure va émerger dans le récit national kenyan, c'est disons depuis quoi, il y a une vingtaine d'années, depuis les années 90-2000 ? Au point de lui dédier un musée quand même.
Tout à fait. En fait, l'histoire, le récit national kényan a très longtemps été centré autour du moment de l'indépendance, comme dans beaucoup de pays africains, donc dans les années 60 au Kenya, et autour de la figure de Jomo Kenyatta, le père de la nation, qui participe justement à ce moment de libération. On a une remise en question en fait de ce récit national un petit peu unitaire, centré autour de Jomo Kenyatta et notamment du groupe Kikuyu, donc son groupe d'appartenance ethnique, qui a donc largement contribué à l'indépendance du pays. Et donc il y a un certain nombre de manifestations, de protestations, de dissensions de la part d'autres groupes qui réclament aussi d'être reconnus pour leur participation à l'indépendance. Et c'est là où on a des héros comme Koitalel Samoei, qui finalement est à la fois un chef spirituel, militaire et politique de la société Nandi telle qu'elle était au début du XXe siècle. Et là, donc, on a une revendication de dire que finalement la lutte pour l'indépendance, elle a commencé bien avant les années 40-50, avec des personnages comme Coytel El Samoy qui, au début donc, du siècle, empêchent les colons britanniques de s'installer dans la région de la vallée du Rift, sur les hauts plateaux kényans. Elle les empêche de d'installer leurs plantations et de, notamment de construire le chemin de fer, donc le assez connu, qui va de Mombasa à, sur la côte kényane à Kampala en Ouganda, et qui est central pour l'économie de la colonie anglaise de l'époque.
Mais,
donc c'est ainsi qu'il émerge.
Chloé Jos Durand, quand même, ce qui est frappant dans, dans le cas des Nandi, dont Coytel El Samoy était un grand chef, c'est que leur lutte contre la colonisation, elle ne s'inscrit pas dans une cause nationaliste quelconque. Il n'est absolument pas question pour eux de construire un État kényan indépendant. On n'est pas du tout encore dans ce cas-là.
Tout
alors
à fait.
C'est étonnant du coup de le voir apparaître dans le récit national.
Tout à fait. Il y a encore des personnes, voilà, des personnes âgées, des vieux qu'on appelle les Mzé en Swahili au Kenya, que j'ai pu rencontrer sur place, qui me racontent que parfois il leur arrivait à l'époque, donc eux étant enfants à l'époque, voilà, de cette petite guérilla locale Nandi, racontaient que leurs parents ou eux-mêmes se rendaient à Nairobi parfois et donc appelaient Nairobi le Kenya. Donc pour eux, Nairobi n'étant qu'à à peu près une dizaine d'heures de voiture de Nandi, ce qui n'est pas non plus très loin. Donc oui, une conception du Kenya qui est encore présente aujourd'hui chez ces Mzé, chez ces anciens, qui est tout à fait différente de celle que le récit national essaie justement de mettre en scène. Un Kenya qui aurait été là avant l'indépendance, pendant l'indépendance et après l'indépendance.
Alors, vous dites, hein, Chloé Jos Durand, vous nous l'expliquez, que très longtemps, ce récit national, il a tourné très essentiellement autour de Jomo Kenyatta, qui était le premier président du pays, considéré comme le père fondateur de la nation kenyane. Et puis, à un moment, on va commencer à voir émerger un certain nombre de revendications, un certain nombre de nouvelles figures, comme celle-ci, par exemple. Le premier qui va se lancer dans cette guerre des mémoires, par lesquelles on va voir justement émerger ces nouvelles figures plurielles de cette histoire nationale, c'est le président Mwai Kibaki, qui a été président de 2002 à 2013. Pourquoi est-ce qu'il se lance justement dans cette guerre des mémoires, qu'est-ce qu'il essaye de faire à travers cela ?
Tout à fait. Donc, au début des années 2000, finalement, on a un retour de la mémoire, des mémoires vives, justement, donc sur la scène politique, notamment puisque Mwai Kibaki est élu à la suite de plus de 25 ans d'une dictature très autoritaire, donc qui est celle de Daniel Arap Moi, le président en fait qui donc le précède. Et donc, pour se faire élire aussi, il fait campagne sur la promesse du retour du pluralisme politique, donc multipartisme, la fin des emprisonnements politiques, retour de la presse libérée, liberté, libérée, etc. Donc on a tout un ensemble de promesses et notamment finalement aussi d'en finir avec cette chape de plomb et ses secrets et cette pesanteur autour de l'indépendance et de mettre un peu à nu toutes les souffrances de l'ensemble des groupes kényans ayant participé à l'indépendance et donc de pluraliser le récit national, ce que j'ai décidé de nommer ainsi notamment dans ma thèse.
Et ça,
c'est à la fois une stratégie politique, mais aussi également une véritable volonté de refonder la nation à ce moment-là.
Et ça passe par l'objet musée. Il y a plusieurs événements qui vont montrer justement cette dynamique. Il y a d'abord l'inauguration en novembre 2010 d'une galerie du National Museum de Nairobi, où là aussi, on va essayer peut-être de faire rentrer dans ce récit national de nouvelles figures. C'est en tout cas ce qu'on cherche à faire, peut-être... Enfin, vous êtes peut-être assez critique sur ce qui va être fait à ce moment-là, mais racontez-nous, Chloé Jos Durand.
Oui, tout à fait. Donc, on a la première, grande mesure prise par Mwai Kibaki, c'est d'inaugurer une première galerie d'histoire politique kenyane. Et ce qui est intéressant, c'est vous savez, tous les débats qui ont eu lieu sur la création de cette galerie, justement, puisqu'elle n'a pas été créée du jour au lendemain. Il y a eu plusieurs années de rendez-vous, de réunions entre des experts internationaux du patrimoine liés à l'UNESCO, entre des chercheurs kenyans, entre des politiciens kenyans. Également entre des associations et des représentants des associations des droits de l'homme pour décider de comment représenter justement la participation de l'ensemble des groupes du Kenya à cette libération. Et donc on voit que certains tentent de jouer sur le pathos, par exemple, en utilisant justement des bruits de guerre, etc. Et finalement, l'idée commune qui émerge de ces débats, et qui fait aussi que je critique un petit peu cette galerie, c'est qu'il est plus facile de désigner un ennemi extérieur pour se rassembler que de mettre en scène et de montrer aussi toutes les difficultés et les oppositions au sein des différents groupes ayant participé à l'indépendance. Donc finalement, le colon britannique, dans tout ce qu'il a de plus caricatural également, est largement mis en scène dans cette muséographie comme étant l'ennemi commun contre lequel s'est construit le Kenya depuis le début du siècle.
Mais justement, l'objectif de cette nouvelle galerie, c'est précisément de s'extirper un peu de cette histoire de la colonisation britannique et de construire une histoire nationale du Kenya. C'est aussi ça l'objet de cette nouvelle galerie en 2010.
Tout à fait, tout à fait. Mais quand on étudie justement les différents thèmes ou la mise en scène aussi, assez, voilà, qui joue beaucoup sur les sentiments. On a notamment des photos, des peintures de massacres. On a aussi une exposition des anciens, des anciennes armes qui ont été utilisées, des vêtements troués, des anciens combattants pour la lutte pour l'indépendance qui ont été donc pendus ou assassinés par les colons britanniques. Donc on a quand même une muséographie qui, même si elle montre une véritable partie de l'histoire, joue beaucoup sur les sentiments du spectateur.
D'accord, donc on est très loin de cette remise à plat totale, de cette promesse du pluralisme naissant au Kenya. On est très loin de tout ça.
Finalement, Coetel El Samoy, dont on parlait juste avant, qui est donc présenté comme l'un des premiers à s'être opposé à la colonisation, même si lui le faisait avant tout pour défendre ses propres territoires et non pas le Kenya, comme vous le disiez justement. Coetel El Samoy, dans cette muséographie, il a en tout et pour tout un portrait de lui en noir et blanc.
Dans cette galerie à Nairobi, vous voulez dire, dans cette galerie à Nairobi.
Tout à fait.
Et à quoi ressemble le site justement du musée Mausolée?
Alors le site du musée Mausolée, en fait, c'est assez intéressant. C'est un mélange entre un musée et un mausolée justement. Donc le mausolée est en forme de bouclier. Il symbolise justement la lutte des Nandis pour l'indépendance. Et il rappelle aussi le bouclier que l'on retrouve sur le drapeau kényan, le drapeau national. On a également un bouclier un peu ovale et pointu. Donc c'est aussi intéressant de voir comment ce musée, même par son architecture finalement, symbolise à la fois de sa entre guillemets, non pas contestation, mais renégociation du récit national, mais aussi vient quelque part le corroborer et l'appuyer en reprenant les symboles nationaux qui sont ceux du Kenya depuis les années 60.
Et quel a été l'effet justement de la construction de ce musée mausolée sur la communauté Nandi? Est-ce que ça a permis d'assurer une meilleure intégration? Alors pas forcément dans le grand récit national, mais au moins dans le paysage politique, sinon national, au moins local.
Oui, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce musée, donc ça c'est la partie mausolée ressemblant donc à un bouclier, mais il y a aussi une partie musée, une galerie. Donc dans ce mausolée, on a donc la tombe de Coetel El Samoy, et dans un bâtiment annexe, on a une exposition muséographique. Et la principale galerie de cette exposition, elle s'appelle le Hall of Fame, donc c'est ce qu'on pourrait appeler finalement une espèce de panthéon des grandes personnalités nandi. Donc parmi elles, Coetel El Samoy, bien évidemment, mais aussi ses supposés descendants. Et donc on a une généalogie en fait qui prend tout un mur de cette galerie, qui est régulièrement en fait retravaillée par le conservateur, par les anciens qui viennent, qui montrent en fait tous les descendants de Coetel El et justement mettent en avant certaines figures politiques locales qui seraient ses présupposés descendants. Et donc ces figures locales, descendants du héros Coetel El, auraient plus le droit ou seraient plus légitimes que d'autres à représenter les Nandis et donc à être élus au niveau local. Donc ça transforme également aussi la mise en récit du politique au niveau local et permet aussi l'entrée en politique de nouvelles personnalités Nandis.
Mais ça c'est pour le récit, dans les faits, sur le terrain.
Dans les faits, sur le terrain, comment ça se traduit concrètement? Effectivement, là, on a eu une des premières élections depuis la mise en place de la décentralisation en 2013. Donc, on a eu des premières élections qui, en fait, soulignent que 80% des élus locaux dans le comté de Nandi sont d'origine Nandi et que parmi eux, un certain nombre se revendiquent, lors de leur visite du musée ou même lors de leur discours, d'une affiliation avec le héros Coetel El Samoy.
Bon, donc ça a fait bouger les choses.
Tout à fait. Il y a une transformation des pratiques politiques, clairement. Et encore une fois, un recentrement sur l'identité, la communauté Nandi, et donc un discours d'autochtonie un petit peu virulent, un petit peu agressif, qui naît aussi de ces élections particulières.
On parle ce matin d'identité nationale, de récit national et de musée avec Chloé Jose Durand. On va quitter l'Éthiopie et le Kenya pour se diriger doucement du côté du Sénégal.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
L'ouverture prochaine du musée des civilisations noires s'inscrit dans un contexte particulier marqué par un renouveau du secteur culturel qui nécessite de nouvelles logiques dans les politiques muséales. Le musée doit participer activement à la préservation des éléments les plus représentatifs du patrimoine culturel du monde noir et affirmer l'engagement du Sénégal dans le combat pour la préservation de la diversité des formes d'expression culturelle du monde noir et de leur contenu, un des piliers de l'unité de notre humanité.
Voilà, extrait du discours du professeur Ibrahima Tioub lors de l'inauguration du musée des civilisations noires de Dakar. L'historien et recteur de l'UQAD, de l'université Cheikh Anta Diop, l'une des grandes figures intellectuelles du Sénégal aujourd'hui, parlait d'un tournant dans la logique muséale du pays. On va retrouver Malik Ndiaye, qui est historien de l'art, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop également, et puis membre de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire, et puis conservateur du musée Théodore Monod d'art africain. Malik Ndiaye, le chantier du musée des civilisations noires vient de s'achever dans la capitale sénégalaise. Il a été construit et cofinancé par Pékin. C'est un projet qui avait été lancé par l'ancien président Abdoulaye Wade et qui a créé beaucoup de controverses, beaucoup de critiques à cause de la lenteur du chantier, du bâtiment lui-même, mais aussi parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir dedans. Quel regard vous portez sur ce nouveau musée et sur les polémiques qu'il a suscité, Malik Ndiaye ?
Je pense que le musée est un musée qui est né dans le contexte qui n'est pas le sien. C'est un projet qui date depuis les années 70. Au lendemain du premier festival mondial des arts nègres, en 1966. Donc c'est un chantier qui a été démarré précisément en 1974. À l'époque, un architecte avait été choisi, beaucoup de rencontres avaient été organisées. Par la suite, Senghor, le premier président du Sénégal, est parti. Le chantier, le projet même, tout le projet, et tombé dans les oubliettes, jusqu'à l'avènement du président Wade. Donc, début des années 2000, le projet a été ressorti des tiroirs. À un moment donné, on s'est posé des questions sur sa faisabilité, mais avec la coopération chinoise cette fois, donc qui n'était pas là au début du projet, avec cette coopération chinoise, le projet a été réalisé et le musée a été finalisé. Mmh.
Vous rappelez cette longue histoire effectivement de ce musée Malik Ndiaye. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, on a toujours l'ombre de cette figure tutélaire, bien sûr celle de Léopold Senghor, qui plane sur la politique culturelle du Sénégal? On sait bien sûr que l'héritage de Léopold Senghor est extrêmement fort aujourd'hui encore. On se souvient aussi bien sûr de la place qu'il conférait à la culture dans les affaires publiques. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, le Sénégal est encore un peu bloqué dans cette vision qui a donc maintenant 50 ans, hein, vous le rappeliez, cette vision de Senghor de ce que devait être la politique culturelle sénégalaise? Peut-être que les choses ont changé en un demi-siècle.
Je pense qu'il y a une partie de vérité dans le cas où on considère que le Sénégal est bloqué au point de vue culturel dans la vision sénégalienne, parce que la moitié du bien faites par les politiques culturelles, je veux dire que par là, les institutions qui sont établies, tous les dispositifs qui existent, la moitié appartient à l'héritage de Senghor. La vision que Senghor avait, la planification de la culture, la feuille de route que Senghor avait, et cette organisation même de la politique culturelle, de la politique muséale et d'autres secteurs, n'est pas ce à quoi nous avons assisté par la suite. Donc, dans un certain sens, au Sénégal, à chaque fois que nous parlons de culture, il y a ce réflexe hein, qui consiste à revenir. Maintenant, pour le musée des civilisations noires, il faut calculer beaucoup de choses ici. Bon, il y a l'opportunité également politique. Hein. Wade s'est saisi d'un projet qui était à la mesure de l'homme qu'il avait longtemps combattu. Et par ce projet, c'était également une manière de voir et de montrer à la face du monde que lui également, il est dans le culturel et il a des choses à faire. Mais il n'en reste pas moins que aujourd'hui, les politiques culturelles sénégalaises manquent d'une part de vision claire. Hein. Il faut dire également qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et récemment, le ministère de la Culture a organisé cette lettre de politique sectorielle du secteur de la culture qui avait reçu la contribution de plusieurs intellectuels, de plusieurs scientifiques, de plusieurs hommes de culture, pour essayer maintenant de relancer cette politique culturelle en lui donnant un contenu, une cohérence et une vision.
Et justement, peut-être une vision différente, une fois encore, je reviens vers la politique culturelle développée par Senghor, parce que dès le départ, finalement, il va chercher à marquer, on s'en souvient avec l'organisation notamment du premier festival des Arts Nègres, avec ce musée dynamique qui est construit sur le front de mer, qui va en être la pierre angulaire. Et on se souvient, au début de l'histoire de ce musée, on va organiser des expositions extrêmement prestigieuses, Chagall, Picasso, finalement des choix qui montrent un certain élitisme en la matière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce souci peut-être d'ouvrir la culture à un public plus large? Et comment concrètement on s'y prend pour justement améliorer cet accès à la culture?
si nous remontons depuis les années 80, si à partir des années 80-90, nous prenons l'impact qu'a eu les plans d'ajustement structurel sur le fait que l'État n'était plus là, cet État a perdu du terrain et à ce moment, le secteur culturel laissé à lui-même était obligé de chercher d'autres sources de financement. Donc, à partir des années 80 déjà, les sources de financement se sont démocratisées, la création artistique a eu cette démocratisation également. Donc, deux manières pour la culture de se démocratiser et d'atteindre aujourd'hui une certaine diversification. Hein. Nous avons aujourd'hui un grand développement des cultures urbaines avec la ville de Dakar qui impacte là-dessus dans l'organisation et qui finance beaucoup ces cultures urbaines. Et puis, plusieurs types de manifestations d'expression culturelle, hein, qui sont des expressions culturelles, disons, entre guillemets, internationalisées, peuvent avoir un impact ici au Sénégal. De ce point de vue, donc, je pense que pour répondre à votre question, la culture, les politiques culturelles se sont plus démocratisées, la culture s'est mieux organisée, mais cela n'a pas du tout été à chaque fois pensé par les politiques culturelles elles-mêmes, pensé dans une vision claire, dans une feuille de route, par l'État du Sénégal, forcément, et par d'autres acteurs institutionnels. Mais c'est surtout que le privé a eu de plus en plus un impact réel.
Vous êtes le conservateur Malik Ndiaye du musée Théodore Monod d'art africain. Depuis quelques semaines, justement, votre musée, en partenariat avec le musée des civilisations noires, abrite cette exposition texte style, en deux mots, étoffe, graphisme et société qui met en lumière le savoir-faire africain et qui explore un peu les domaines de l'esthétique des peuples du continent. Vous aviez déclaré au journal sénégalais Le Soleil, je vous cite, « Les textiles proclament la haute technicité du savoir-faire des sociétés africaines. Ils sont les indicateurs du raffinement des goûts esthétiques et confirment la maîtrise de l'alchimie des matériaux. » L'idée de cette exposition, Malik Ndiaye, c'est de montrer justement les expressions culturelles et les modes de vie du Sénégal, entre autres, à travers ces textiles. Là, on est loin, en l'occurrence, des expositions Chagall et Picasso, dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi ce désir d'ouvrir peut-être à des choses qui manquaient dans la culture sénégalaise.
Moi, depuis que je suis arrivé au musée, j'ai voulu revisiter le patrimoine, donc les collections même du musée. Et donc, nous exposons et nous faisons voir ce qui existe dans ces collections, tout en veillant à chaque fois à accompagner une partie du patrimoine que nous montrons, à mettre ce patrimoine à côté de la création artistique contemporaine. Donc, textile, comme vous le dites, est une exposition dont l'objectif est justement de puiser dans le patrimoine du musée, mais également de l'accompagner de quelques artistes qui continuent à travailler sur le textile. C'est une manière également de montrer que c'est un musée qui vit, que c'est un musée qui continue de collecter des objets qui appartiennent à notre monde contemporain. Nous essayons de montrer la continuité du patrimoine contemporain à côté du patrimoine traditionnel que nous avons dans nos collections.
Allez, toute dernière question, Malik Ndiaye, que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure à propos du musée des civilisations noires. Parce qu'il y a quelques mois, le directeur de l'établissement, qui s'appelle Amadi Bokou, m'expliquait que les musées européens étaient beaucoup trop centrés sur l'objet et que pour sa part, le musée des civilisations noires serait centré sur le vivant. Concrètement, ça veut dire qu'il va y avoir quoi dans ce musée ?
Mais je pense qu'il faut lui poser la question, mais à ce que j'ai compris, parce que bon, c'est deux institutions différentes, le musée des civilisations noires espère beaucoup centrer également son discours sur le patrimoine culturel immatériel, entre autres, parce que nous avons au Sénégal, en Afrique et dans le monde, pour les cultures noires du musée des civilisations noires, une partie du patrimoine qui est beaucoup axée sur l'immatériel. Je pense que ce patrimoine vivant, il veut dire par là que ce sera concentré sur le PCI.
Lepp luma la ma sa def tugna rectuna lepp luma la ma sa ton jegal mako lepp luma la ma sa def tugna rectuna lepp luma la ma sa ton jegal mako ya allah wahidun tugna rectuna lepp luma la ma sa ton jegal mako.
On entendait à l'instant Malik Ndiaye depuis Dakar, historien de l'art, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop, membre de l'IFAN et puis conservateur du musée Théodore Monod d'art africain. Je voudrais vous faire réagir peut-être Chloé Jos-Durand. Un cas très intéressant, ce Sénégal, parce qu'on sent bien qu'entre ce musée des civilisations noires et puis cette exposition textile du musée Monod, on est vraiment dans cette tension entre, disons, une vision vraiment sangorienne de la politique culturelle et puis aussi quand même une démarche qui consiste un peu à patrimonialiser la culture sénégalaise. Chloé Jos-Durand.
Tout à fait, et pour compléter ce que disait justement Malik Ndiaye, ce qui est aussi intéressant de voir, vous me posez la question entre le rapport entre musée et politique. Alors même si je connais mal le Sénégal, en tout cas il est évident que ce musée des civilisations noires, il participe d'un projet politique mené par Abdoulaye Ouad, notamment le projet qu'on appelle les Sept Merveilles, hein, qui forme le parc culturel de Dakar justement, donc parmi lesquels donc le Grand Théâtre National, la Maison de la Musique, les Bibliothèques Nationales, le musée des civilisations noires. Et en fait, je peux pas m'empêcher de penser à un autre projet qu'il avait également monté, hein, parce qu'on parle de musée, mais on parle aussi de monuments. Et les monuments, souvent, sont imprégnés d'idéologie politique. Moi, je pense à l'inauguration en 2010, qui a été très critiquée et très polémique, du monument de la Renaissance africaine également à Dakar.
Financé par la Corée du Nord, non ?
Financé par la Corée du Nord, et c'est intéressant, donc un monument donc immense, hein, de 50, plus de 50 mètres de hauteur, qui représente un homme tourné vers le futur avec sa femme et son enfant à ses bras. Et c'est intéressant puisque moi j'ai pu consulter des archives aussi au Kenya qui montraient qu'un groupe d'experts kenyans en musée, voilà, d'experts en muséographie, est allé visiter justement plusieurs bâtiments, plusieurs monuments et musées pour s'inspirer justement pour le musée national de Nairobi, en Namibie mais aussi au Zimbabwe, en Afrique du Sud, et que c'était les monuments zimbabwéens également financés, hein, par la Corée du Nord qui avaient particulièrement retenu leur attention. Voilà, donc c'est aussi intéressant de voir comment la Corée du Nord, avec toute sa symbolique, sa rhétorique esthétique, de la puissance politique, inspire aussi un certain nombre de musées, de monuments en Afrique.
On va traverser l'Atlantique, refaire d'une certaine manière le chemin qu'avaient fait un certain nombre d'esclaves africains pour se retrouver aux États-Unis. Depuis l'île de Gorée, on traverse et on va du côté de Washington pour retrouver Sarah Fila Bakabadio. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne en études américaines et afro-américaines. Vous êtes maître de conférence à l'université Cergy Pontoise. Le 24 septembre dernier, à Washington, Barack Obama inaugure ce musée national afro-américain. Il déclare à ce moment-là, ce musée peut peut-être aider un visiteur blanc à comprendre la souffrance et la colère de manifestants dans des endroits tels que Ferguson et Charlotte. Évidemment, le pays venait de traverser une période de profonde contestation avec d'importantes émeutes suite à la mort d'un noir, on s'en souvient, tué par la police. Donc ce musée, il est aussi là pour rappeler aux Américains que les tensions raciales n'appartiennent pas au passé, loin s'en faut. Il y avait déjà, Sarah Fila Bakabadio, un musée de l'histoire et de la culture afro-américaine. Il y avait l'Anacostia Community Museum qui a été créé en 1967. Alors pourquoi en rouvrir un autre ?
Alors le musée d'Anacostia se trouve justement dans une banlieue assez éloignée du centre, banlieue dans laquelle la population est en majorité noire, mais c'était un petit musée avec peu de financement et qui finalement avait une visibilité assez limitée du fait de son éloignement par rapport au centre de Washington et que peu de visiteurs en fait allaient voir, malgré en fait des collections qui étaient très importantes et des collections qui ont migré vers le nouveau musée. L'important pour une partie des Afro-Américains et des minorités aux États-Unis, c'est aussi d'avoir une certaine visibilité, même géographique, par rapport au pouvoir central américain. Et les musées qui représentent la nation américaine sont étalés tout au long du mall. Donc il est à proximité de la Maison Blanche.
Donc ce que vous voulez dire, si je vous comprends bien, Sarah Fila Bakabadio, c'est que la grande nouveauté avec ce musée, c'est qu'il est au cœur de Washington, à mi-chemin entre le Congrès et la statue d'Abraham Lincoln. L'emplacement même, en fait, est un symbole, celui de l'intégration, alors au forceps peut-être, mais intégration quand même, de la communauté afro-américaine.
Oui, c'est vraiment un symbole, c'est vraiment très important. C'était en plus le dernier espace disponible dans cette zone très politisée qui effectivement est entre la Maison Blanche, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et des monuments qui représentent les présidents américains. Le musée est au plus près du Washington Monument. Donc c'était important et c'était aussi un débat parmi les fondateurs du musée de comment valoriser ce symbole d'une localité localisation géographique près du pouvoir qui est aussi une localisation symbolique.
Alors, il y a l'emplacement, Sarafila Bakabadio, mais il y a aussi le musée lui-même, la mise en musée. Est-ce que dans l'organisation même du musée, dans l'agencement des différentes pièces, est-ce que cette idée de l'intégration de la communauté afro-américaine apparaît? Est-ce que la mise en musée a été réfléchie justement pour mettre en avant cette question de l'intégration? Je crois que vous n'avez pas encore vu ce musée, mais vous avez eu l'occasion de parler à un certain nombre de personnes qui y sont allées. Vous irez bientôt, mais est-ce que c'est le cas?
Alors effectivement, j'y suis pas encore allée. Des avis et des commentaires que j'ai, effectivement, il y a un travail à ce sujet-là. Travail qui a suscité beaucoup de discussions parmi l'équipe dirigeante, à savoir comment se départir d'une construction d'une exposition permanente et d'exposition temporaire qui réitérerait en fait une chronologie assez classique partant de l'esclavage, la ségrégation et puis après la libération et potentiellement le post-racial jusqu'à il y a quelques semaines. Donc c'est un travail qui était déjà fait à Anacostia, en fait, avec beaucoup moins de moyens. Et c'est un travail qui était vraiment au cœur du projet de ce musée pour, en fait, présenter des objets du quotidien et présenter une vision du bas, comme on appelle du below. Comment les Afro-Américains vivaient à telle ou telle période, comment ils ont construit une culture. Donc, il y a un vrai travail de réflexion à ce sujet-là qui, je suppose, se reflète dans la mise en scène, dans la représentation des objets et aussi dans le dialogue avec le bâtiment qui a été construit pour avoir une signification par rapport aux objets.
Ça fait maintenant 2 mois que le musée a ouvert. Comment est-ce qu'il est accueilli par le public et comment est-ce qu'il se compose, ce public? Est-ce que c'est essentiellement des Afro-Américains qui s'y rendent ou est-ce que c'est un public plus large? Parce que la question évidemment qu'il y a derrière, qui est extrêmement naïve mais qui en même temps est décisive, c'est est-ce qu'on peut imaginer que ce musée aura un quelconque effet sur cette question de l'intégration des Afro-Américains dans le récit national et dans la société en général?
Alors, je pense que la localisation permet à un public plus large d'accéder, en fait, à ce type d'histoire. Très pratiquement, quand moi j'allais au musée d'Anacostia, il y avait peu de visiteurs et de visiteurs étrangers ou même américains d'autres États, dans la mesure où c'était trop loin. La localisation sur le Mall fait que le musée et l'histoire afro-américaine est intégrée parmi un parcours touristique et donc aussi un récit national. Donc oui, c'est une possibilité. Je pense qu'il y aura plus d'Américains et d'abord d'Afro-Américains très, très logiquement à se rendre dans ce musée et d'étrangers. Ça peut permettre potentiellement un brassage qui, malgré tout, peut être assez superficiel dans la mesure où dans le musée aussi Native American qui existe sur le Mall depuis beaucoup plus d'années, on rencontre plus de touristes étrangers et de minorités de cette minorité-là que de touristes américains dits blancs.
Sarafila Bakabadio, il faut peut-être s'intéresser peut-être à d'autres minorités. Je pense aux minorités amérindiennes. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'elle est extrêmement plurielle. C'est très compliqué d'imaginer un musée qui rassemblerait l'histoire au singulier et la culture au singulier de la population amérindienne. Elle est par définition extrêmement vaste. Il y a beaucoup de groupes, des dizaines de groupes, peut-être même des centaines de groupes différents. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour faire face à cette question-là?
Alors, ça a été effectivement une question, sans être spécialiste d'études amérindiennes, mais ça a été une question. Le choix qui a été pris par les fondateurs du musée fédéral amérindien, c'est de dédier un étage par nation indienne. Et donc, à l'intérieur de chaque étage, les différentes tribus sont représentées à travers un certain nombre d'objets et des expositions permanentes ou temporaires. Donc, effectivement, cette question de l'articulation de la diversité à l'intérieur de la minorité est une question constante. Et c'est une question pas simplement pour les Amérindiens, c'est aussi pour les Afro-Américains, parce que dans l'optique en fait des fondateurs de ce nouveau musée, il y a aussi la représentation des communautés afro-américaines, c'est-à-dire communautés régionales, communautés de classe aussi, communautés afro-américaines de type Barack Obama, afro-américaines de caribéennes également. Donc c'est aussi un questionnement sur la diversité à plusieurs échelles, à savoir les musées représentant les minorités sont censés représenter une diversité au niveau de l'échelle nationale, mais également la multiplicité de ce que veulent dire ces identités-là. Et donc ça, c'est un des challenges. Pour le musée amérindien, je pense que c'est assez réussi, sans, sans être encore une fois spécialiste, dans la mesure où les visiteurs peuvent comprendre qu'il y a une structuration en tant que nation et qu'après il y a une démultiplication en tant que peuple et tribu.
Chloé Jousse-Durand, peut-être une réaction depuis Rennes sur ce musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine qui vient d'ouvrir du côté de Washington. Chloé Jousse-Durand.
Oui, alors moi j'ai envie de le mettre en parallèle avec un de mes petits musées, puisque moi je suis plutôt spécialiste des petits musées que des grands, mais en fait ce qui m'intéresse particulièrement dans ce musée, c'est aussi l'écho qu'il trouve au Kenya, puisqu'on a aussi un projet de musée Barack Obama, qui devrait ouvrir dans la ville en fait natale du père de Barack Obama dans l'ouest du Kenya. Et en fait, le père de Barack Obama est enterré sur ce territoire-là. Et on a aussi le projet, un projet kényan de musée dédié à Barack Obama dans cette région. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que, en fait, le père de Barack Obama appartient à un groupe ethnique qui est en fait historiquement dans l'opposition depuis l'indépendance. Et justement, cette opposition qui n'arrive pas à accéder au pouvoir à travers la figure de Raila Odinga aujourd'hui au Kenya, ils sont partis de l'ODM. Et en fait, c'est intéressant parce qu'à travers la victoire d'Obama aux États-Unis, on a aussi une revendication de plus en plus forte de l'opposition kényane justement à l'alternance, qui s'exprime aussi par le biais de projets de musées, donc ici un projet Barack Obama dans cette région de l'opposition pour souligner justement peut-être des éléments politiques plus locaux. Donc encore une fois, le musée au centre de lutte politique, je pense que c'est vraiment un sujet particulièrement d'actualité.
Qui est à l'origine de ce projet de musée Barack Obama, qui n'est pas encore en place, mais qui a eu l'idée? C'est le régime en place?
Exactement. Non, c'est pas exactement le régime en place, c'est aussi la famille qui veut mettre ça en place. Mais oui, le régime en place, mais pour des raisons également qu'il faut pas, là j'ai pas eu le temps d'en parler, mais des raisons aussi financières, qui sont qu'en fait, ils espèrent attirer beaucoup de touristes, notamment américains, dans cette région plutôt méconnue du Kenya. Qui est l'Ouest.
Justement. Et puis peut-être dernier élément justement à préciser à propos de ce musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine de Washington, c'est qu'il a été en partie financé par des fonds fédéraux et en partie bien sûr, comme c'est souvent le cas, par des donations privées, Oprah Winfrey, le basketteur Michael Jordan, la fondation Bill et Melinda Gates, évidemment, tout ce petit monde a participé pour créer ce musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine.
Oh Lord, black baby, oh Lord, black baby,
grand merci à nos deux invités, d'abord Sarah Filabac-Abadio qui était avec nous par téléphone, et puis un grand merci à vous Chloé Jousse-Durand de nous avoir accompagnés, de nous avoir éclairés sur cette fabrique des récits nationaux du côté de l'Éthiopie et du Kenya. On peut bien sûr retrouver nos échanges sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Et je remercie également d'ailleurs l'équipe de Rennes qui a permis de faire le duplex. Tout de suite sur France Culture, le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Avec un Brice Couturier qui aujourd'hui est malade au fond de son lit, on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc on va vous proposer une rediffusion d'une chronique du 23 septembre dernier. C'était une semaine sur l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication sur nos sociétés, et en particulier sur la question des robots. Est-ce que les robots s'apprêtent à travailler à notre place, Brice ?
Eh bien, le cabinet de consultants McKinsey, dans une étude récente, estimait que la bombe de l'automatisation pourrait supprimer 45% des activités actuellement exercées aux États-Unis. Et qu'on n'imagine pas que cela ne concernera que l'industrie. Le commerce de détail, les transports, les métiers de l'assurance, de la comptabilité, l'éducation et même le journalisme, Florian, vont être touchés. Déjà, bien des informations boursières sont rédigées par des machines. Beaucoup de gens se demandent si leur métier fait partie de ceux qui risquent d'être emportés par la nouvelle vague technologique. On nous dit « la quatrième révolution industrielle va susciter, hors les métiers déjà connus de l'informatique, nombre d'autres dont nous n'avons encore aucune idée ». Mais les entreprises industrielles de jadis requéraient d'énormes masses de main-d'œuvre. Les grandes compagnies de l'ère numérique, elles, emploient très peu de personnel. Pensez que General Motors, au sommet de son activité, faisait travailler jusqu'à 800 000 personnes et comparé avec Facebook. Avec une valeur boursière de plus de 350 milliards, le réseau social le plus populaire de la planète tourne avec moins de 15 000 salariés. En fait, les véritables employés de Facebook travaillent pour la firme de Palo Alto bénévolement. Oui, bénévolement, puisque c'est vous et moi qui fournissons le contenu. Du coup, beaucoup de gens prédisent que le chômage que nous connaissons aujourd'hui n'est rien en comparaison de ce qui nous attend.
Alors certes, Brice, mais il y a aussi des analyses qui pensent que l'automatisation pourrait permettre de rapatrier des emplois qui s'étaient évaporés du fait de la mondialisation.
Oui, c'est vrai, vous avez raison Florian. Les robots, les imprimantes 3D pourraient bien permettre de relocaliser certaines productions. Le PDG de PayPal, le libertarien Peter Thiel, prédit que le deuxième âge de la machine, comme il dit, va provoquer un vaste mouvement de relocalisation. Et son raisonnement est simple. Les emplois peu qualifiés ont échappé aux travailleurs des pays riches parce que les firmes ont découpé leur production en segments, localisant chaque étape dans le pays présentant à leurs yeux les meilleurs avantages. C'est le système qu'avait exposé Thomas Friedman dans La Terre est plate. Or, les robots, eux, ne consomment que de l'électricité. Leur prix ne cesse de baisser. On peut les faire travailler aussi bien en Malaisie que dans le Massachusetts. La robotique a déjà pénétré certains secteurs tels que l'électronique ou le textile. Leurs producteurs ont moins tendance à aller délocaliser leurs ateliers vers les grands bassins de main-d'œuvre asiatique ou sud-américain. Tout porte à croire, affirme le prix Nobel d'économie Michael Spence, qu'ils vont dorénavant chercher à se rapprocher de leurs clients. Et il donne l'exemple d'Adidas, qui vient d'ouvrir une usine ultra robotisée en Allemagne. Mais précisément, ce seront des activités ne nécessitant que très peu de travail humain, et plutôt du travail très qualifié. Alors d'autres optimistes vous rappellent qu'à chaque vague d'innovation, les meilleurs esprits ont annoncé que le remplacement du travail humain par des machines allait provoquer une explosion du chômage. Dans les années 30, le grand John Maynard Keynes lui-même se disait tracassé par le risque d'un chômage technologique. Et il s'est trompé comme les autres. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Luddite fallacy, l'idée fausse des Luddites, en référence à ces fameux ouvriers du textile qui ont brisé les métiers à tisser au début du 19e siècle en Angleterre, persuadés qu'elles allaient leur ôter le pain de la bouche. Mais dans le passé, les progrès techniques ont toujours tendu à créer de nouveaux emplois, plus intéressants et mieux rémunérés à mesure qu'ils en supprimaient d'autres. Et on nous ressort l'argument classique du basculement des emplois de l'agriculture à l'industrie, puis de l'industrie au service. Le secteur manufacturier, qui représentait encore 22% des emplois aux États-Unis en 1980, est tombé à 11% en 2011 et on prévoit qu'il n'occupera plus que 2,8% des travailleurs en 2030. Alors oui, certainement, la révolution industrielle va créer des emplois, mais autant ou moins que ceux qu'elle n'en détruira. Mon partenaire WorldCrunch a mis en ligne un article du magazine chilien America Economia qui met le doigt sur un argument décisif. Cette révolution va certes créer des emplois dans des secteurs de très haute technologie, mais ces postes vont requérir des compétences très pointues pour lesquelles très peu de gens sont aujourd'hui formés. Il y aura donc une longue période d'adaptation. Et tout porte à croire que l'érosion de la classe moyenne, telle qu'on peut la constater aux États-Unis, va concerner la plupart des économies développées, y compris en Amérique latine. Dans ce contexte, on comprend que revienne sur le tapis l'idée de revenu universel. Elle permettrait aux exclus de cette transition technologique de survivre, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle témoigne d'un véritable pessimisme sur la capacité de l'économie de demain à fournir à chacun d'entre nous un emploi rémunérateur. Et comme l'écrit Rana Dasgupta dans Prospect de ce mois-ci, je la cite, « Le système n'a plus besoin de nous. Sa solution ? Imaginer des moyens pour que les armées de chômeurs participent normalement à la vie de la société. » Et elle prend l'exemple dans le passé des moines du Moyen-Âge en Europe. Les aristocrates payaient pour qu'une proportion non négligeable de la population prît pour le salut des âmes. Aujourd'hui, des communautés locales tentent de sortir des circuits de l'économie classique afin de vivre en marche. Alors, recréer des monastères laïcs ?
Voilà, donc rediffusion de cette chronique de Brice Couturier du 23 septembre dernier. Brice qui sera de nouveau à ce micro en pleine forme demain, en tout cas on l'espère et on le salue. Dans un instant sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Olivia Gesbert.